Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère au mieux. Merci pour votre fidélité à notre rendez-vous de chaque jour. Peut-on parler de politique en société, en famille ou avec ses amis? C'était la question que nous nous posions tous ensemble hier en direct sur RTL. Nos opinions parfois nous définissent plus qu'on ne l'imagine et les désaccords peuvent conduire à des ruptures bien regrettables. Vous pourrez entendre le témoignage édifiant de Julien à ce sujet sur les replays d'En effet pour s'entendre sur l'application RTL. Nous sommes ensemble jusqu'au 32-10, pas du tout, nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 et je vous attends au 32-10 et sur nos réseaux sociaux. Allez, je vais vous le proposer. On va glisser tout doucement et avec énormément de pudeur et de délicatesse sous la couette. Alors que l'on s'attendait à un baby Covid boom suite au premier confinement et contre toute attente, la natalité est en baisse ces derniers mois en France. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé les amis? Que sont devenues toutes ces promesses de nuit, de matinée et d'après-midi torrides? Notre libido serait-elle en réalité impactée par la crise sanitaire? N'aurions-nous pas vraiment la tête et le reste à ça? On en parle avec vous, nos invités que je vais vous présenter dans un instant. Mais pour l'heure, on ouvre le bal de nos conversations avec Gaspard. Gaspard, bonjour.
Bonjour, bonjour, ça va?
Soyez le bienvenu, ça va très bien Gaspard. Merci d'être avec nous. Et vous?
Écoutez, moi ça fait 3 ans que je suis avec ma copine.
Ouais, vous et avez puis, 28 ans?
Ouais, j'ai 28 ans.
Et 28 ans, normalement... On est en pleine forme à 28 ans, enfin.
Mais
c'est le souvenir qu'on en a. Voilà.
mais je suis en pleine forme, je fais du sport, tout va bien, bon. mais au lit, c'est pas la folie.
Alors, au lit, ça n'est pas la folie, voilà, ce sera quand même la punchline du jour. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple avec Mélanie?
Ça va faire 3 ans.
Vous vivez ensemble?
Ouais, on vit ensemble, on a emménagé il y a presque 2 ans.
D'accord. Elle est comment, Mélanie? Comment ça se passe entre vous?
Mais ça se passe bien. Ouais. Disons qu'on a une bonne relation, on s'entend toujours très bien, on s'engueule pas plus qu'avant. Il y a rien qui a changé, sentimentalement.
Ouais.
Si bon, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, parfois on peut avoir des doutes. Mais c'est surtout le désir qui évolue.
Alors,
qui évolue, qui change.
On va en parler. Est-ce que vous avez senti depuis un an justement que des choses avaient changé?
Ouais, clairement.
D'accord, ça n'est pas comme avant. Est-ce que l'on peut vous demander quelle était à peu près, enfin comment est-ce que vous pourriez définir votre relation intime et sensuelle avant le confinement, le premier confinement?
Mais avant le confinement, ça se passait bien, parce que disons qu'on avait tous notre vie un petit peu à droite et à gauche, on rentrait le soir du travail, on était contents de retrouver sa compagne.
Ouais.
Moi j'étais heureux le soir de la retrouver.
Ouais.
Donc c'est vrai que ça nous arrivait
C'était chouette. Bon, le premier confinement est arrivé, on va y aller progressivement. Alors,
ouais.
Premier confinement, on s'est tous dit, waouh, expérience unique dans notre vie. On savait que ça se terminerait au bout de 6 à 8 semaines. On se disait qu'après, on se retrouverait et on allait recouvrer une vie normale. Comment est-ce que vous avez abordé ce premier confinement? Parce que c'est vrai que les couples ont dû faire face au télétravail. Je crois que ça a été votre cas aussi, Gaspard, ainsi que Mélanie.
Oui.
Donc, au fait de passer plus de temps ensemble. Et certains disent, voilà, c'était une... Dans le marasme, dans le chaos dans lequel nous étions, c'était aussi une occasion de nous retrouver. Est-ce que c'est comme ça que vous avez abordé le premier confinement?
Mais carrément. C'était un petit peu une parenthèse qu'on ouvrait dans notre vie. C'est quelque chose de nouveau. Et puis, on a eu comme un peu une redécouverte.
Ouais, c'est bien
comme
ça.
Comme si on retrouvait un petit peu les débuts de notre relation. C'était fun de passer du temps avec sa copine comme ça, c'est inespéré.
Est-ce qu'il vous arrivait, pardon, de faire l'amour à des horaires que vous ne connaissiez pas, d'être dans la découverte, je dirais presque, d'une autre sexualité, puisque vous étiez toujours ensemble?
Ah bah oui, mais complètement. Mais complètement, parce que c'est vrai qu'être derrière son PC toute la journée, bah, rien ne nous empêche de nous absenter une petite demi-heure, et c'était fun.
C'était fun.
Au début, c'était fun.
Bon, alors, ce premier confinement s'est déroulé. Ensuite, déconfinement, l'été, youpi!
Youpi, il fait beau.
Ouais.
on déconfine, les bars réouvrent.
Ouais.
C'était cool. Disons que la transition s'est faite tranquillement et puis tout s'est bien passé.
D'accord. Et puis l'automne arrive. c'est la rentrée, c'est l'automne, la reprise du boulot. Et puis là, on se rend compte évidemment que la vie n'est toujours pas celle que l'on attendait, pas celle en tout cas que l'on avait quittée. Est-ce que c'est là que vous avez senti que les choses changeaient ? Comment ça s'est passé au moment de l'automne ?
Disons que ce deuxième confinement, il est un peu mal tombé parce que l'hiver arrive, parce que c'est vrai que des belles choses ont eu lieu juste avant. Il y a eu l'été, comme vous le disiez, il y a eu le déconfinement, donc on a décompressé. Et puis là, c'est assez mal tombé. On est très rapidement tombé dans une espèce de monotonie, le télétravail, on n'en peut plus.
Ouais.
Et c'est vrai que ça commence à... Enfin, disons que le désir commence un petit peu à s'essouffler. Et puis même, être toute la journée ensemble,
ouais.
Ça devient compliqué.
Est-ce que vous faites toujours l'amour, Gaspard ?
Moins souvent. Beaucoup, beaucoup moins souvent.
D'accord, beaucoup, beaucoup moins souvent. Est-ce que c'est un manque de désir, je dirais, partagé avec Mélanie ? Est-ce que vous êtes au même tempo ? Ou est-ce que finalement, tout cela cause certains désaccords ?
C'est très difficile à expliquer. Disons que notre vie est devenue assez monotone.
Ouais.
Comme je vous le disais, on est entassé. Moi, étonnamment, je ressens énormément de fatigue le soir. Je ne sais pas si c'est le fait de rester toute la journée à la maison, de pas sortir, de pas s'aérer un peu l'esprit. Mm-hmm. Mais c'est vrai que, disons, avant le soir, il m'arrivait d'attendre un petit peu de tendresse de la part de ma compagne. Et là, vu que je peux en recevoir toute la journée, étant donné qu'on est tout le temps ensemble, j'ai moins ce besoin-là, j'ai moins ce désir-là.
Ça vous inquiète ?
Un peu.
Bon. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. On va poursuivre. Je suis sûre que beaucoup de nos auditeurs se retrouvent dans votre témoignage. N'est-ce pas tout le monde dans ce studio ? On a Inès, la pauvre, qui nous écrit. Moi, j'ai pas fait l'amour depuis mars 2020. Je suis célibataire et ma libido est en grande dépression. Alors, on parlera aussi, évidemment, des célibataires. Mickaël, que celui qui nous avait annoncé le retour en grâce de notre sexualité au premier confinement se dénonce. C'est plutôt morne pleine par ici. On a vraiment le sentiment, effectivement, que nous n'avons pas la tête à faire l'amour. On se retrouve dans un instant. Gaspard, si vous souhaitez témoigner sur cette antenne, à l'instar de Gaspard, vous composez le 3210 ou alors vous vous rendez sur les réseaux sociaux. Je me ferai l'écho de vos messages. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
On parle de notre libido. On nous avait promis des nuits, des matinées, des après-midi torrides lors du premier confinement il y a un an. On nous disait, et on se disait d'ailleurs, super, on va pouvoir avoir une vie sensuelle, une vie intime, une vie sexuelle différente. Et on va pouvoir peut-être sortir d'une certaine monotonie. Et puis on se rend compte, un an après, et on le partage aujourd'hui avec nos invités, notamment Gaspard qui est en ligne avec nous, on se rend compte que notre libido est en berne, si je puis dire. Gaspard, on poursuit notre conversation si vous le voulez bien. Beaucoup de nos auditeurs réagissent à votre témoignage et se sentent enfin concernés. En tout cas, ont vraiment le sentiment que l'on en parle enfin. Est-ce que c'est un sujet, justement, cette sexualité qui devient, de ce que j'entends chez vous, monotone, est-ce que c'est un sujet qui vous interroge ? Est-ce que c'est quelque chose qui clairement a un impact sur votre vie amoureuse ?
Ah bah oui, complètement. Comme je vous le disais, ça va faire 2 ans qu'on s'est installé avec ma copine.
Ouais.
Et je ne me suis jamais posé autant de questions que ces derniers mois.
Alors, 2 questions sur quoi ? Sur votre sexualité ou sur votre relation ?
Mais un peu des deux, sur la sexualité, parce que c'est pas normal qu'à 28 ans, on n'ait pas envie de faire l'amour à certains moments. Je pense que c'est pas normal.
Bon, on va en parler avec nos invités. Comment est-ce que vous pourriez décrire cette sexualité en dehors du fait qu'elle est monotone et que vous êtes fatigué ?
Je ne sais pas si je dois le dire à l'antenne.
Bah, c'est à vous de savoir, c'est à vous de...
Mais il m'est arrivé, il y a peu de temps de ça, d'avoir des pannes.
Vous savez que ça arrive à tous les hommes, ça ?
Ben oui, mais moi, ça ne m'était jamais arrivé. À 28 ans, j'avais jamais eu ce problème-là.
Ouais.
Et du coup, forcément, je gamberge, je me pose plein de questions, à la fois sur ma sexualité et puis sur la relation que j'ai avec une copine qui s'essouffle un peu.
Comment est-ce qu'elle réagit, Mélanie, quand vous êtes face à ce genre de petit accident ?
Ben, elle réagit plutôt bien. Elle essaye de me réconforter.
Ouais.
Mais c'est très dur. Mmh. C'est dur d'en parler quand même. Je suis quelqu'un d'assez pudique.
Vous en parlez avec vos amis? Alors voilà, c'est ça. Vous partagez pas avec vos amis?
Non, je n'aime pas aborder ce genre de problème avec mes amis. Je préfère leur dire que tout se passe bien et puis je garde ces problèmes-là un peu pour moi.
Alors, vous n'êtes pas tout seul, Gaspard, hein, je vous rassure. Votre sexualité aujourd'hui, vous n'arrêtez pas de dire j'ai 28 ans. Vous avez l'impression d'avoir la sexualité d'un autre âge?
Je ne sais pas comment se comporte la sexualité de mes parents ni de mes grands-parents, mais... je ne pense pas avoir une sexualité normale pour quelqu'un de mon âge. Du moins, ces derniers temps.
Eh, dis donc, vous avez un truc à redire sur la sexualité des plus âgés ou quoi? Qu'est-ce que vous en savez enfin, Gaspard? Vos grands-parents et vos parents s'éclatent aussi.
Je l'espère pour eux, mais s'ils s'éclatent plus que moi, ça me gêne.
Bon, en tout cas, on arrive à en rire parce que ça, je pense que c'est une bonne méthode, une bonne solution, comme lorsque l'on rencontre des petits problèmes, effectivement, sexuels. Néanmoins, ils sont partagés par beaucoup d'auditeurs. Je vais vous présenter nos invités. Claire Alquier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes sexologue et cofondatrice de l'association Le Vestibule et autrice de podcasts autour des questions de sexualité, de genre et de féminisme. Patrick Papazian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin sexologue. Merci d'être avec nous. Vous êtes les deux meilleurs amis de Gaspard et de nos auditeurs aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut dire à Gaspard, Patrick Papazian, c'est normal?
On peut lui dire vraiment avec beaucoup de conviction.
Mais ça nous inquiète, hein, ça.
Mais bien sûr, et je comprends les inquiétudes de Gaspard, mais Gaspard, il décrit très bien finalement ce qu'il se passe en ce moment pour beaucoup de monde au sujet du désir. Déjà, le désir, c'est pas une île. Le désir, c'est connecté à la santé mentale. On sait que les Français vont globalement mal en ce moment. Du coup, la santé sexuelle en prend un coup. Et puis, le désir, c'est aussi lié à la distance, au temps, en tant que sexologue. Hein, avec l'heure, on passe notre temps à expliquer à nos patients qu'il faut érotiser le temps, érotiser la distance. Qu'est-ce que vous voulez érotiser quand on est collé l'un à l'autre en confinement et quand on se retrouve une demi-heure après s'être quitté dans la pièce d'à côté? Et puis aussi, c'est important de comprendre que le désir, c'est un espoir dans l'avenir. Enfin, il y a une foi, finalement. Il y a une projection dans le temps. Et au premier confinement, on l'avait encore, cette projection. Oui. On se disait, allez, c'est un moment dur à passer, on se serre les coudes, et puis on se rappellera de cette aventure qu'on racontera à nos petits-enfants. L'aventure, elle se prolonge, et surtout, on n'a aucun cap. On ne sait pas du tout comment tout ça va se terminer et quand ça va se terminer. Et ça, pour le désir sexuel, c'est dramatique.
Que disent les chiffres aujourd'hui sur la situation sexuelle des Français?
Les chiffres montrent, enfin un faisceau d'arguments montre que ça va globalement mal pour la sexualité des Français et dans le monde en général. On a potassé avec Claire, on va confronter nos chiffres, mais en gros, ce qu'on a vu, c'est que par exemple, la natalité s'est effondrée en décembre 2020, janvier 2021, mais vraiment comme on ne l'avait pas vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas négligeable. Ensuite, en déclaratif, on a trouvé une étude américaine qui montre que une personne sur deux déclare que son désir est impacté par la crise sanitaire. Une sur deux, c'est quand même énorme. Et puis, on a un faisceau d'études menées dans différents pays d'Europe. Alors, la France n'est pas la meilleure élève pour avoir étudié ça, mais l'Europe du Sud l'a plus fait, notamment l'Italie. Et on voit bien qu'il y a en gros 30 à 40% de la population qui dit « ça va vraiment plus mal niveau désir depuis cette crise ». Et on a un petit 10 à 20% qui dit « mais non, ça va plutôt mieux ». Donc, on a aussi cette minorité.
On a des messages aussi dans ce sens.
Exactement, et notamment plus de femmes que d'hommes. Ce qui, du coup, nous interroge d'ailleurs sur la construction du désir, et on pourra peut-être en discuter.
Alors, est-ce que vous avez le sentiment, Gaspard, que Mélanie est comme vous? Est-ce que vous en parlez au sein de votre couple?
Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des problèmes qu'on met un peu sous le tapis parce qu'on se dit que c'est lié à la période et puis que ça ira mieux quand tout ça s'arrêtera. Quoi.
D'accord, ok. Donc, vous n'en parlez pas vraiment. C'est à vous dire, on vit une période un peu compliquée, mais on n'en parle pas pour autant. Claire Alquier.
On est un peu fataliste.
Claire Alquier.
Oui, moi je voudrais. Je trouve que ce que Gaspard nous raconte est très intéressant sur ce qu'il exprime de lassitude. En fait, on est lassé de la situation et c'est compliqué du coup d'alimenter ce désir qui demande à être alimenté. Ce qu'on peut conseiller quand même à Gaspard, c'est peut-être d'en parler, même si on se dit qu'en effet la situation est comme ça et que ça ira peut-être mieux quand ça sera terminé, vu qu'il n'y a pas de date, qu'il n'y a pas de projection possible. Je pense que le désir, il se construit aussi, peut-être en échangeant avec sa compagne, peut-être en essayant de faire différemment et en faisant en fait que ses difficultés et que son sentiment d'être un peu anormal, parce que c'est ça qu'il nous dit aussi, c'est pas du tout le cas, c'est effectivement lié au contexte, mais peut-être que ça peut s'alimenter, se nourrir et se construire un peu différemment, avec un peu plus de douceur, pendant cette période un peu compliquée.
Gaspard, dans un instant, on va réinventer l'érotisme, parce que c'est ça aussi. Hein. On réinvente notre quotidien aujourd'hui, on essaye de réinventer notre vie, nos relations aux autres, mais on peut également réinventer sa sexualité. Vous restez avec nous, Gaspard, et je me ferai l'écho des messages qui nous arrivent. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Et voilà, et ceux qui nous suivent sur RTL.fr ou sur l'application RTL ont pu assister pendant ce disque à une imitation de France Gall que je fais en général quand j'en ai un petit coup dans le nez dans les fins de soirée, mais je le fais pas mal, hein, Patrick Papazian.
C'était brillant, moi
c'était brillant. Je vous remercie. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 pour parler d'une chose beaucoup moins joyeuse. En tout cas, la musique s'est un petit peu calmée côté sexualité depuis un an. D'ailleurs, je tiens à féliciter nos invités qui sont Claire Alquier et Patrick Papazian, qui sont tous les deux sexologues, puisqu'effectivement, s'il en est qui ne se sont pas trompés il y a un an sur les prédictions sur notre sexualité pendant la Covid, c'est ce que vous me rappeliez, Patrick Papazian, c'est bien bon. Vous, puisque sur cette antenne, il y a un an, vous nous disiez tous les deux, ça va être une cata. Bon, bah maintenant, on y est, dans la cata, et on en parle avec vous tous, vos messages qui nous arrivent. D'ailleurs, Hervé a cherché à nous joindre, on va vous laisser notre numéro de téléphone, enfin, vous allez nous laisser votre numéro de téléphone, et Gaspard est en ligne avec nous. Gaspard, Mélanie, ça fait 3 ans, pour ceux qui nous écoutent et qui arrivera en cours de route, 3 ans que vous êtes en couple, un an que votre sexualité finalement se monotonise, si je puis m'exprimer ainsi. En tout cas, vous avez le sentiment, et alors ça, nous, on s'est pris un coup dans la carafe quand vous nous l'avez dit, d'avoir la sexualité, voire de vos parents, voire de vos grands-parents. Voilà. Donc ça, on oubliera notre petite vexation de passage. Et en même temps, ce que l'on comprend, c'est que vous rencontrez en tout cas des difficultés qui vous font vous interroger sur la nature même de votre relation. Au-delà de la sexualité, c'est aussi l'affection qui vous pose question. On en débattra tout à l'heure. Claire Alquier, je le disais, on doit réinventer notre vie aujourd'hui. Oui. On doit réinventer nos relations interpersonnelles. Est-ce qu'il ne faut pas réinventer notre sexualité d'une façon ou d'une autre?
Il faut essayer en tout cas.
Ce qui est un défi, je trouve.
Absolument, c'est un défi qui nécessite d'avoir des ressources. Et c'est pour ça que d'avoir des émissions comme ça, d'avoir des lectures, d'avoir d'autres podcasts, de faire exister le sujet, en tout cas déjà, c'est une manière peut-être d'ouvrir un petit peu quelques portes et d'aller vers une invention nouvelle.
Alors si déjà on a rassuré Gaspard en lui disant qu'à 28 ans, c'est normal, Gaspard. À 28 ans, on peut avoir des pannes.
Bien sûr qu'on peut avoir des petites difficultés érectiles et c'est pas du tout anormal. Et ça n'est pas du tout catastrophique et ça ne signe pas la fin d'une sexualité. En revanche, ce que je ne pourrais que conseiller à Gaspard, c'est vraiment de ne pas rester bloqué là-dessus, de pouvoir en parler avec sa compagne, éventuellement peut-être en parler à un professionnel aussi, pour avoir
si
des petits conseils.
Si ça vous prend trop la tête.
Pour pouvoir un petit peu décharger tranquillement la pression que ça occasionne. Et puis de considérer que ça peut arriver à tout le monde, effectivement. Le contexte est compliqué, on est stressé, on est fatigué.
C'est comment on réinvente quand on est stressé, quand on est fatigué? Est-ce que c'est pas une injonction supplémentaire à notre sexualité que de se dire bon allez chérie, ce soir on fait les choses différemment, tu vois, ça a été comme ça pendant 2 ans, maintenant c'est comme ça depuis 1 an, mais là et elle là, on va pas tout à coup, je sais pas, sortir nos...
Si bien sûr, pas de pression de plus, effectivement, voilà. Mais un peu de douceur, moi c'est là-dessus que j'insistais un peu tout à l'heure. Un peu de douceur, du temps pour soi et du temps pour l'autre. Il faut des espaces qui permettent que éventuellement une sensualité, voire une sexualité existe. Donc il faut créer ces espaces-là tranquillement. On peut le faire, même dans un espace physique assez réduit, même avec des horaires qui sont différents. Il y a des petites choses à modifier comme ça, où on peut s'accorder un petit peu de douceur, mais de douceur pour soi et envers soi aussi, avant de pouvoir créer des nouveaux espaces à deux.
Est-ce que vous essayez d'allumer votre désir, Gaspard ? J'entends par là, parfois le désir, être contre l'autre dans un lit suffit à le désirer, et puis parfois non. Donc on fait appel à l'imagination, à des discussions, on essaye, je dirais, de mettre des paillettes, Kevin, dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire, Gaspard ? Est-ce que vous engagez dans une sorte de sexualité autre même que le pot à pot ? C'est-à-dire une sexualité vécue différemment ?
Mais non. Mais c'est compliqué parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'être tous les jours avec sa copine, et surtout que moi je suis vachement, j'accorde une importance particulière à l'apparence, et c'est vrai que l'avoir tous les jours un petit peu habillé de manière casanière, quoi, en tenue de dimanche,
En jogging,
ça,
quoi.
Ça entretient pas ce désir, quoi. Moi j'aimais bien l'avoir habillée comme quand elle allait au travail, je sais pas, il y a.
Ouais. Et vous, excusez-moi de vous poser la question, mais enfin vous êtes.
Je lui reproche que ce que je suis et ce que je fais exactement.
Bah voilà, c'est ça. Bon, alors, Patrick Papazian, on va pas sortir les smokings et les robes de soirée non plus. Mais bon, c'est intéressant de ne pas se laisser dévorer, je dirais, par ce rythme de vie qui est le nôtre aujourd'hui. Et ça a un impact forcément sur l'érotisme.
Mais oui, parce qu'on disait au début que santé sexuelle et santé mentale, c'est lié. Et pour être en bonne santé mentale, c'est aussi garder parfois des réflexes du monde d'avant. Et on a le droit aussi de se faire beau pour rester chez soi, de faire attention à ça, de respecter certains horaires comme si on avait une routine d'avant, parce que ça fait du bien à la tête et donc ça fait du bien au cœur et au désir. Après, c'est exactement ce que disait Claire, c'est vraiment diversifier ses sources de désir en général dans la vie, parce que le désir sexuel se nourrit beaucoup du désir et du plaisir dans d'autres domaines.
Donc bien manger, écouter
exactement,
une super musique...
Exactement, se concentrer sur des sensations, se dire ça c'est agréable, ça c'est bien. Il y a une étude, je sais que vous aimez les études, Flavie, très intéressante, qui montre que les patients qui ont eu le Covid et qui ont une anosmie, donc une perte de l'odorat, ont une diminution du désir sexuel.
Bah, évidemment.
C'est intéressant parce qu'on voit bien à quel point c'est connecté. Alors, c'est pas simplement sentir l'odeur de l'autre, c'est aussi en général,
quand même.
Un peu aussi, exactement, mais c'est aussi sentir l'odeur d'une bonne tasse de café, d'un plat appétissant qui va nourrir le désir sexuel.
Parce que le désir est basé sur nos sens.
Exactement, et sur ces souvenirs-là d'émotions positives qu'on va essayer de recréer. Et c'est pour ça qu'à l'inverse, c'est important, à mon avis, qu'en effet, Gaspard ayant parlé, Gaspard consulte, parce qu'il faut pas rentrer dans un cercle vicieux où du coup il va tellement s'interroger et se questionner qu'il va avoir du mal à sortir de ce cercle tout seul. S'ajoute à ça aussi le fait qu'il est en couple depuis 3 ans. C'est pas simple d'être en couple depuis 3 ans quand on a 28 ans. Il faut pas non plus négliger ce paramètre-là. Donc il faut pas peut-être tout mettre aussi sur le dos du Covid et voir aussi ce qui pourrait être travaillé au sein de son couple de manière générale, ce qui lui sera toujours utile de toute façon pour la suite.
Bon, Gaspard, j'allais vous dire, on se tient au courant. Hein ?
Mais vous
allez nous écouter jusqu'à 15h30 parce que vous n'êtes pas le seul dans cette situation. Il est des couples au long cours qui se sont redécouverts sexuellement. Il est des couples au long cours qui s'ennuient. Non mais je vous montre, mais vous n'êtes pas un couple. C'est une façon de parler. Il est des couples au long cours qui s'ennuient prodigieusement. Et puis il y a la question des célibataires aussi qui s'inquiètent parce que leur libido est au point mort. On se retrouve dans un instant. On va faire un tour par l'information. Alors ça va pas nous faire nous exciter des masses, évidemment. Et on se retrouve juste après pour de nouveaux témoignages. Merci Gaspard, à bientôt sur RTL.
Merci.
Flavie Flamand sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Et vous, comment va votre libido ? On en parle jusqu'à 15h30 en compagnie de nos invités qui sont sexologues. Patrick Papazian, médecin sexologue. Claire Alquier, sexologue et autrice de podcast autour des questions de sexualité, de genre et de féminisme. Quand on vous demande si votre libido va bien, Aude nous explique que notre question du jour la rassure, car l'envie de faire l'amour n'est plus vraiment là depuis quelques mois. La période est tellement morose que j'ai l'impression d'être en hibernation. C'est drôle, nous écrit Carole. Nous en parlions ce week-end avec mon compagnon. Nous qui avions une sexualité plutôt très active, tournons un peu au ralenti depuis le premier confinement. Et puis enfin, Rodolphe, je ne pensais pas que la sinistrose ambiante pourrait jouer sur ma libido, mais force est de constater qu'elle a un impact. Au début de la crise, on se disait avec ma femme, bah oui, que c'était une chance de pouvoir passer du temps ensemble. Mais finalement, nous faisons moins l'amour qu'avant. La sexualité s'épanouit dans la légèreté, dans la nouveauté, dans la surprise. Tout ce qui nous manque depuis désormais un an. Bon. C'est pas jojo, on est d'accord, mais on n'est pas les seuls. Donc déjà, c'est une maigre consolation, mais c'en est une. Réinventer notre sexualité, bah voilà ce qui nous arrive, et en tout cas ce qui nous attend, si l'on veut effectivement recouvrer le goût de l'intime et de la sensualité. Ça tient à quoi le désir ? Comment ça fonctionne, Patrick Papazian ?
Le désir, bah, c'est essentiellement dans la tête et je crois qu'on est tous en train de le redécouvrir ou de le découvrir. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien que, ok, il y a des hormones, il y a des neurotransmetteurs, il y a tout un tas de choses, il faut que les structures fonctionnent à peu près, mais c'est à 99% dans la tête. Et ça se nourrit de tout ce qui va être capté dans la journée, dans la semaine qui précède. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en général, ce désir va se remplir de nouveau fort de l'envie de se faire du bien, de faire du bien à l'autre. Et c'est ce qui est mystérieux et à la fois magique dans le désir sexuel. C'est qu'il va se nourrir de toutes ces petites pistes d'optimisme vers l'avenir que sont tous les petits plaisirs de la vie.
En fait, le désir, c'est quelque chose qui monte, mais pas simplement lorsque l'on décide que l'on va faire l'amour, Claire Alquier. Ça peut monter le matin, ça peut durer toute une journée, ça peut...
Ouais, c'est justement ça qui peut être très chouette à...
C'est un fil, quoi.
À appréhender. Ouais. On peut apprendre à jouer avec, on peut apprendre à le faire durer, à le faire peut-être un petit peu piquer un peu plus haut de temps en temps, puis redescendre. Enfin, et puis s'en amuser avec son ou sa partenaire si on en a. Et puis s'en amuser aussi seul si on n'a pas de partenaire. Je crois que le désir, il a le droit d'exister, il a le droit d'être alimenté aussi quand on est seul, et ça me semble très important.
Alors, il est certains célibataires qui s'inquiètent. Hein. C'est Inès qui nous disait en début d'émission qu'elle est célibataire et que sa libido est en grande dépression. Mais alors, le contraire arrive aussi. Fabien, alors là, ma libido, elle ne s'est jamais aussi bien portée, nous écrit-il. Tant mieux, Fabien. Je suis célibataire, je fais des rencontres d'un soir. Oui, je brave le confinement et le couvre-feu, mais il y a quelque chose d'excitant à ça. Alors, bon, est-ce que c'est bien raisonnable? On n'est pas là pour en parler, Fabien, mais on vous invite quand même à une grande prudence en ce moment. L'idée que souligne Fabien, c'est de braver le confinement, c'est de transgresser quelque part le couvre-feu. Est-ce que le désir se construit aussi, Claire Alquier, sur cette idée de la transgression, même si on n'invite pas tous nos auditeurs à faire comme Fabien? Mais on peut transgresser d'autres choses aussi, hein, chez soi.
Bien sûr, on peut transgresser par exemple des horaires auxquels on n'était pas habitué d'avoir des rapports sexuels. On peut transgresser ses habitudes, si on peut parler comme ça.
Voilà, c'est ça.
On peut essayer de jouer avec d'autres codes, on peut essayer de réinventer la transgression. C'est pas forcément n'être que hors la loi. C'est aussi peut-être changer ses habitudes, faire différemment,
tenter de nouvelles choses.
Commander des accessoires sur des sites tout à fait informés qui peuvent nous conseiller des choses très très sympas. Essayer de nouvelles choses, utiliser l'audio beaucoup aussi, pourquoi pas. Jouer avec les sens. Tout à l'heure on en parlait. Jouer avec les liens, jouer avec la privation des sens. Enfin, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à imaginer. On peut les imaginer à deux, et c'est ça qui peut rendre aussi un petit peu le fait de se réinventer assez riche dans des périodes où on s'ennuie peut-être un petit peu plus et où on a un petit peu peur de ce que va être l'après. Mais je pense qu'il y a vraiment plein de possibles. En fait, le champ des explorations, il est quand même extrêmement large.
Avant de l'aborder, est-ce qu'il faut en parler aussi, Patrick Papazian?
Bien sûr, en parler.
Non, mais de dire à l'autre, écoute, voilà, moi je pense qu'en ce moment, on va pas se mentir, ça n'est pas, voilà. Mais et si on faisait ça? Et si on jouait à ça? Est-ce que tu aurais envie de me suivre sur ce chemin-là? Est-ce que...
On peut en parler, bien évidemment, mais on peut aussi surprendre l'autre, évidemment, dans des mesures acceptables et dans le cadre de son consentement, bien sûr.
Ça va sans dire.
Mais du coup, on peut aussi essayer de jouer là-dessus comme ressort du désir, c'est-à-dire d'essayer de proposer à l'autre, verbalement ou non verbalement, aussi des choses qui vont changer, et c'est ce que décrivait très bien Claire. Donc en gros, je crois que c'est important que chacun fasse un peu sa révolution sexuelle, parce qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que vu ce qui nous est tombé sur la tête depuis un an, on peut rester comme ça, un peu comme le lapin dans les phares de la voiture, un peu tétanisé. Ou alors on peut se dire, on va faire sa petite révolution en réinventant tout ça. Et finalement, on l'a fait. Alors, il faut le faire un peu dans tous les domaines. Dans le domaine culinaire, par exemple, avec la fermeture des restaurants pour certains.
Ah bah, tout le monde s'est mis à faire la bouffe, mais personne ne fait l'amour, quoi. Donc c'est quand même dommage, quoi.
On fait du pain maison et on fait de la pâtisserie. Ça serait bien aussi qu'on fasse d'autres choses dans la cuisine, par exemple, d'ailleurs.
Mais exactement, ça fait partie, effectivement, d'une nouvelle érotisation. Peut-être que votre lieu de vie, qui est jonché parfois de jouets d'enfants, de dossiers, de télétravail, peut-être que tout à coup, vous pouvez vous dire, tiens, je sais pas, je vais faire l'amour au travail, quoi. Donc, non, mais je sais pas, mais en fait, c'est faire appel à l'imaginaire. L'imaginaire, on va y revenir dans un instant, car si la libido des Français semble faire un petit peu la tête en ce moment, les fantasmes vont bon train. L'imaginaire sexuel va montrer un. Peut-être que tout le monde le garde pour soi, mais on a beaucoup de messages sur les fantasmes et sur les rêves érotiques. Et on va en parler dans un instant avec vous, en direct sur RTL. A tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
On n'a pas notre sexualité tout à fait en main en ce moment, visiblement. On a William qui nous écrit: je suis dans le même cas que votre auditeur. Notre auditeur, c'était Gaspard tout à l'heure. Je suis mariée depuis 20 ans. Plus de libido, plus de désir de la part de ma femme. De son côté, tout va bien. Un rapport par an lui suffit. Est-ce que hommes et femmes vivent le désir en ce moment de la même façon, Claire Alquier?
Alors, sûrement pas. Je pense qu'on est encore dans une société, même si les choses, elles évoluent et les mentalités évoluent, on est encore dans une société où on considère qu'il est normal que l'homme ait du désir, plus de désir, et que les femmes en aient moins. Donc du coup, peut-être que ce contexte-là un petit peu particulier réajuste d'une certaine manière l'expression de son propre désir et de la réalité de son désir, en fait, où on se rend compte que bah, peut-être c'est pas si problématique que ça. Et ça vient poser la question que je trouve très importante de... Finalement, la question du désir, est-ce que ça fait souffrir la personne ou pas? Ou est-ce qu'il s'agit... Ou est-ce qu'il s'agit juste de répondre à une norme qui devrait dire qu'on est censé avoir du désir pour se sentir normal?
Vous voulez revenir sur les hommes au foyer?
Oui, parce que
Patrick,
je crois
Papazian,
que...
qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est important aussi de comprendre qu'il y a quand même encore beaucoup de couples et de familles qui se construisent sur l'idée que l'homme va travailler, va être plus souvent dehors avec ses copains après le bureau et va
rentrer
après.
C'est un peu cliché ça, hein, votre truc. Hein.
Hyper cliché, mais je crois quand même qu'on ne peut pas complètement le mettre sous le tapis parce que c'est encore un ressort du désir dans un certain nombre de couples. On est quand même dans des sociétés qui restent, désolé, très patriarcales malheureusement. Donc du coup, je crois que ça fait un peu tanguer finalement le Covid. Et positivons, disons que c'est peut-être l'occasion justement de réinventer un peu tout ça et de faire cette fameuse révolution sexuelle chacun.
Alors il en est qui ne doit pas, alors qui normalement devrait vivre une véritable révolution, c'est la révolution du désir naissant, la révolution de la découverte de la sexualité. Moi je pense aux jeunes. Est-ce que l'on sait comment se porte la jeunesse qui est en pleine découverte normalement de la sexualité en cette période ?
On le sait parce que les consultations de psychologie des jeunes sont remplies, débordent. On assiste vraiment à un drame en direct.
Hein, on va parler des jeunes et de la Covid de mercredi prochain.
Voilà, et c'est bien d'en parler parce qu'il y a vraiment une vraie détresse psychique. Et mettons-nous à leur place, on a tous connu ça, les premiers émois. C'est quand même aussi se toucher la main, s'embrasser, aller au cinéma, aller boire un diabolomante ou autre chose à la terrasse d'un café.
Ah, les fraises.
Très bien. Ok, on fera ça au déconfinement. Mais du coup, gère tout ça, on n'y a pas droit et on ne peut même pas se projeter sur quand est-ce que j'y aurai droit. Et ce qu'on voit là aussi hein, dans les enquêtes qui sont faites, c'est que les jeunes vont beaucoup se recentrer sur les applis, les messageries et échanger des contenus assez crus parce que cette ébullition un peu hormonale qu'ils ont fait que ça doit à un moment être canalisé par quelque chose. Et ça, je crois que c'est important de pouvoir en parler avec eux et de leur dire que la sexualité et le désir ne se construisent pas que sur des contenus crus et qu'ils auront accès bientôt, le plus tôt possible, aussi à ce à quoi on a eu accès, nous, c'est-à-dire simplement jouir de nos sens dans tous les
la
sens
tendresse,
du terme.
La tendresse, la douceur. Contact. Est-ce que les jeunes consomment plus de porno, Claire Alquier ?
Il semblerait.
Et est-ce qu'ils s'éduquent, malheureusement, avec le porno ?
Bah, il semblerait que ça ne soit pas nouveau. Par contre, ouais. ce constat-là, le porno fait évidemment partie de l'éducation à la sexualité des jeunes et des ados.
Bah, c'est ce qu'on a déploré, nous, régulièrement dans cette émission. Mais est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est devenu un recours pour les jeunes et est-ce qu'on peut s'en inquiéter ?
On peut s'en inquiéter. S'il n'y a qu'une seule source de porno, le porno mainstream, qui est très...
C'est quoi le porno mainstream, pardon ?
Binaire. Ben, c'est le porno gratuit qu'on trouve sur les gros tubes,
d'accord.
Dont je...
Ouais,
enfin, je vais pas citer les noms, mais voilà.
Les chaînes et compagnie, là, d'accord.
Ouais, exactement. C'est souvent, en plus, des contenus qui sont volés, c'est souvent des contenus qui sont produits dans des conditions un peu dramatiques, où les professionnels, puisqu'il y a des professionnels du sexe aussi qui travaillent là-dedans, ne sont pas bien traités. Enfin, c'est ça qui est problématique pour moi en termes d'éducation, et c'est l'image, du coup, que ces pornos-là vont montrer...
D'accord.
D'une relation sexuelle, d'une relation hétérosexuelle entre un homme et une femme, d'une relation souvent de domination où la femme est soumise à certaines pratiques et à certains contextes. Donc je pense que on est obligé de bosser avec le porno aujourd'hui quand on travaille dans l'éducation à la sexualité, et il s'agirait de pouvoir bosser du coup avec un porno plus intelligent, dit porno éthique et féministe. Il y en a de plus en plus des outils comme ça, un peu plus éducatifs en tout cas.
D'accord, j'imagine que vous en parlez sur votre podcast,
entre autres.
On peut s'inquiéter vraiment pour les jeunes. Vous me disiez il y a un instant que ça vous travaillait, c'est-à-dire que vous êtes dans des prédictions qui ne sont pas très joyeuses sur la jeunesse et la sexualité, Patrick Papazian.
Oui, j'en reçois en consultation qui sont dans une grande détresse. Alors là aussi, je crois qu'en gros, il y a plusieurs choses. C'est de leur dire déjà que c'est différé, hein, donc c'est juste un temps donné. Et puis c'est contextualisé. Claire parlait du porno et c'est important de recontextualiser. Hein, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en ce moment, cette contextualisation des contenus pour expliquer que ça n'est qu'une approche, mais qu'il existe d'autres approches et aussi comprendre ce que c'est le consentement, la sensualité, ouvrir d'autres pistes.
Alors, puisque j'aime les chiffres et les études, on a appris aussi que pendant cette période de crise sanitaire, la consommation, en règle générale, même par les adultes, de porno avait explosé. Donc, en fait, on n'a pas de sexualité. Mais en revanche, on regarde plus de porno.
Et oui, et pour cause. Alors, c'est aussi parfois pour alimenter une sexualité solitaire. Je vous rappelle qu'il y a quand même eu des autorités publiques. Enfin, moi, je reste fasciné par le fait que le département de santé publique de New York ait fait passer un message officiel. Votre meilleur partenaire sexuel, c'est vous-même. Et il y a eu pareil au Canada. Si on avait pensé un jour de notre vivant entendre ça, c'est hallucinant. En tant que sexologue, ça fait un peu mal quand même. Mais du coup, quand c'est nous-mêmes, en général, il faut trouver des stimulations. Et ces stimulations peuvent se trouver par des contenus pornographiques.
Et est-ce qu'on peut déplorer que dans un couple, couple, alors je dis déplorer sans jugement aucun, mais trouver regrettable que dans un couple, effectivement, certains se satisfassent avec du porno et ne soient, parce qu'ils ne sont pas, ils ne reçoivent pas la tendresse nécessaire.
Je ne crois pas, c'est-à-dire que...
Enfin, autant l'utiliser à deux, vous voyez ce que je veux dire.
Mais c'est ça,
l'érotiser, c'est justement, aussi.
Absolument, mais faut pas non plus crier haro sur le porno, je veux dire, c'est il a toujours eu une fonction de tous les temps.
Non, mais si on ne fait plus l'amour, mais qu'on regarde du porno, c'est peut-être un petit peu dommage
C'est un confinement au sein de sa vie de couple.
Exact. Bah, c'est un confinement dans le confinement, quoi.
Bien sûr. Donc, en effet, on peut conseiller d'en faire quelque chose dans le couple et dans la relation.
Claire Alquier.
Peut-être ce qui est dommage, c'est de considérer qu'il n'y ait que ça. C'est l'appauvrissement, du coup, du spectre un petit peu érotique, où ça ne sera centré que là-dessus.
Alors, l'imaginaire, on voulait parler des fantasmes, on va terminer là-dessus. Ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL. Je vous lirai le message de Marlène et d'autres qui nous sont arrivés. Hein, apparemment, l'érotisme va bon train dans l'esprit, en tout cas, à tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Comment ça se passe, vous, dans votre esprit, quand vous pensez sensualité? Il y a Théo qui nous écrit qu'il fait des rêves érotiques quasiment toutes les nuits. Waouh!
La chance.
La chance! Non, mais c'est quand même le plus beau rêve que l'on puisse faire, en général. On a Phoebe qui nous écrit « Je découvre de nouveaux fantasmes. Je suis en couple. Le porno me déprimait. » Alors, Phoebe, je pense que vous êtes une femme. « Le porno me déprimait. Je ne pensais justement pas mon imaginaire aussi puissant. » On parlait du porno qui, effectivement, consommé à outrance, finit par nous mettre dans un état un peu de dépression et peut-être de salissure. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. D'appauvrissement. C'est ce que j'ai cherché. Je ne pensais pas mon imaginaire aussi puissant. Donc, son imaginaire pour Phoebe a été effectivement une réponse à la lassitude du porno. Et Marlène, je suis célibataire. J'ai remarqué que je fantasme beaucoup plus depuis un an. Vous me direz que je n'ai que ça. Mais ma libido est quand même bien présente, bien que mon désir ne puisse être assouvi en ce moment. Est-ce qu'on ne devrait pas, à un moment donné aussi, écouter, laisser aller nos pensées en ce moment, Claire Alquier, et peut-être les écouter davantage, parce qu'on est peut-être tous en mesure de faire ce genre de...
L'imagination est un outil extrêmement puissant en matière érotique. L'imagination, elle est libre, laissons-la un petit peu vagabonder, et puis n'hésitons pas à la nourrir, justement, avec des images qu'on trouverait utiles, intéressantes, avec des sons, avec des lectures, avec des souvenirs, d'expérience, avec peut-être des fantasmes projetés sur l'avenir. Enfin bref, l'imagination, elle est quand même extrêmement puissante et très très large. Donc il ne faut pas du tout hésiter à s'accorder des moments où on puisse la laisser aussi un petit peu s'installer. Parce que c'est peut-être ça dont on manque, c'est d'avoir de l'espace pour ça aussi.
Oui, le temps de l'oisiveté et de la flânerie, et laisser son esprit peut-être un petit peu partir. C'est normal quand on a moins quand on a une sexualité un peu appauvrie, d'avoir des rêves érotiques. Enfin, est-ce qu'en fait on rêve érotique quand on est en manque de sexe?
C'est plutôt bon signe globalement. C'est un peu quand on est au régime et qu'on rêve de bouffe et qu'on se dit que j'aurais bien me taper un plat de frites.
moi, je préfère rêver érotique que de rêver frites, quoi.
Je suis d'accord. C'est plutôt
parce que
bon
c'est
signe.
Le signe.
Ça prouve qu'il se passe quelque chose, qu'en gros, on n'est pas résigné. Le pire, ça serait la résignation. Quand on se dit, de toute façon, ça y est, c'est foutu, il n'y a pas d'autre issue. C'est le pessimisme. Hein. Et ça, c'est un tue-l'amour et un tue-désir terrible. Tant qu'il y a encore ces rêves et qu'on peut entretenir les rêveries érotiques, ça fait partie des outils qu'on utilise en sexologie aussi pour amener nos patientes, nos patients à essayer d'ouvrir grand l'imaginaire et se laisser le droit justement de penser à des choses et d'élaborer sur ces choses. Parce que ça nourrit la machine à désirer, ça donne envie d'avoir envie.
C'est ça, c'est en fait, certains nous disent, moi on fait l'amour, moi on en a envie, c'est normal ça, Claire Alquier?
Il y a quelque chose effectivement d'un peu de lâcher prise quelque part dans le c'est pas alimenté, c'est tout ce qu'on a dit tout au long de l'émission, le fait de ne pas nourrir, de ne pas alimenter, de ne pas essayer d'enrichir, de ne pas essayer de faire différemment.
Réagisse, quoi.
Voilà, il faut juste ouvrir en considérant qu'on a une commode à malice, il y a plein de tiroirs et ouvrons-les.
Réagissons. Patrick Papazian, il y a Claude qui s'inquiète et qui se demande si, au même titre qu'on peut se demander si le monde reviendra un jour à la normale, qui se demande si la sexualité dans un couple, apparemment ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble, la sexualité dans un couple peut vivre une période compliquée et finalement renaître, je dirais, de ses cendres. Est-ce qu'il y a une impermanence du désir dans le couple ?
Je vous réponds un grand oui, Flavie.
Non, mais c'est bien, on terminera là-dessus, parce que c'est important de savoir que ce n'est qu'une période.
C'est très important, parce que ce qui est normal, c'est pas d'avoir du désir, ou ce qui est normal, c'est les fluctuations du désir, de toute manière. Là, il se trouve que les fluctuations, en effet, sont un tout petit peu plus fortes. Hein, on traverse une zone de turbulence, comme dirait l'autre. On s'accroche et on arrivera à destination. Il faut juste s'accrocher, pour le moment, au barreau du lit ou à tout ce qu'on veut, le temps que le désir revienne et que les choses se normalisent un tout petit peu. Là, ça fait beaucoup pour le cerveau humain à absorber en peu de temps. Personne n'est prêt pour ça. Et en général, ce qui tangue un peu, c'est la sexualité.
Donc, pour reprendre un jargon d'aviation, donc il y a des issues de secours, Claire Alquier.
Oui, et les issues de secours, ça peut être aussi de s'occuper de soi différemment, autrement.
De soi, pour mieux s'occuper de l'autre aussi.
Oui,
parce qu'on a tendance à se négliger un peu,
Par exemple, mais effectivement, se faire du bien à soi, c'est déjà se remettre dans une position où du coup, on est à nouveau ouvert vers quelque chose et où potentiellement le désir pourrait à nouveau revenir dans le couple ou chez la personne seule. Se faire du bien, se faire plaisir, être dans une vie où on explore aussi d'autres choses, pas uniquement au niveau sexuel. Ça aussi, c'est pouvoir alimenter à un moment donné le désir et considérer, comme dit Patrick, que oui, le désir il fluctue et c'est normal. Donc
et
pas,
surtout
pas
en
de
ce
panique
moment, quoi.
Non plus. Et peut-être le meilleur conseil. Oui, surtout en ce moment. Et peut-être du coup le meilleur conseil, c'est faisons-nous du bien, et puis si ça arrive à nous faire du bien sur le plan sexuel, bah tant mieux.
Et parlons-en dans le plaisir et pas comme étant un gros sujet de conversation qui doit être posé comme une réunion au sommet sur la sexualité. Non, voilà, peut-être qu'il faut la vivre d'une façon très
légère, un peu plus peut-être.
Voilà, dans un monde où finalement tout est si lourd, pourquoi ne pas se laisser aller à une forme de légèreté ? Merci à vous deux. C'est vrai que vous étiez quand même, vous avez bien lu dans les boules de cristal l'année dernière. On se donne rendez-vous dans un an pour savoir où on en est.
Avec plaisir. Allez, je fais le pari que ça ira bien dans un an.
Écoutez, oui, s'il vous plaît, soyons optimistes. Patrick Papazian, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Claire Alquier, merci beaucoup. Levestibule.org, c'est votre association et puis vos podcasts sur les questions de sexualité. Merci beaucoup, Claire Alquier.
Merci
à vous deux. Nous, on se retrouve demain. Je vous remercie pour cette heure de partage, pour tous les témoignages que vous nous avez envoyés. Vous le savez, cette émission est là. Vôtre. On remet ça donc demain dès 14h30. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain.
Flavie Flamand sur RTL.